talmudique. En pleine mer, nous banquetant, grignotant, devisant et faisant beau et court discours, Pantagruel se leva et se tint debout pour découvrir aux environs. Puis il nous dit « Compagnons, n'entendez-vous rien ? Il me semble que j'entends quelques gens parler en l'air, je n'y vois toutefois personne, écoutez. » À son commandement, nous fûmes attentifs et à pleines oreilles nous humions l'air comme belles huîtres en écaille pour entendre six voix et aucun son y serait épars. Plus nous persévérions à écouter, plus nous discernions les voix jusqu'à entendre des mots entiers, ce qui nous effraya grandement et non sans cause, ne voyant personne et entendant voix et sons divers d'hommes, de femmes, d'enfants, de chevaux, si bien que Panurge s'écria « Ventre bleu, est-ce moquerie ? Sommes-nous perdus ? Fuyons, il y a embûche autour de nous. » Le capitaine du bateau prit la parole en ces termes « Seigneur, ne vous effrayez de rien. Ici, c'est le confin de la mer glaciale, sur laquelle fut au commencement de l'hiver grosse et cruelle bataille. L'or gelèrent en l'air les paroles et cris, les chocs des armures, les hennissements des chevaux et autres vacarmes de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passée, le temps chaud revenu, elles fondent et sont entendues. « Tenez, dit Pantagruel, regardez celles-ci qui ne sont pas dégelées. » Il nous jeta alors à pleine main des paroles gelées et qui semblaient des dragées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels, quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige et nous les entendions réellement. On y vit des paroles piquantes, des paroles sanglantes proférées par une gorge coupée, des paroles horribles et autres déplaisantes à voir. D'autres, en dégelant, rendaient des sons comme tambours, clairons ou trompettes. Nous entendîmes moult miaulements qui étaient comme langage humain. Ce texte de Rabelais que l'on trouve dans le 55e et le 56e chapitre de son carlivre, épisode connu sous le titre des paroles gelées, a été très commenté et en particulier dans son rapport au thème du livre, de l'écriture, de la lecture et de l'interprétation. Les mots écrits dans le livre sont les paroles gelées qui attendent leur dégel que leur offriront la lecture et l'interprétation. Chaque livre espère en son printemps. Mais on peut comprendre ce texte de manière un peu différente et qui me semble d'une grande actualité. Ne sommes-nous pas dans une période de glaciation linguistique où les mots se sont gelés et congelés et ne produisent que le fracas de la glace qui se cogne, se casse et se fracasse? Ne sommes-nous pas, comme le disait le prophète Ézéchiel, entrés dans l'ère des mots devenus proverbes et des slogans, allant et traversant le monde, proverbisant l'expression d'Ézéchiel au lieu de parler réellement? Ne sommes-nous pas installés dans une période de paroles parlées dont il faut sortir pour découvrir une parole parlante, selon l'expression de Merleau-Ponty, dégel nécessaire de la parole pour retrouver, réentendre les mots d'azur, les mots de sable et les mots dorés, pour retrouver une clarté dans le sens des mots et une réelle possibilité, dès lors, de mieux comprendre le monde et les événements qui s'y produisent. Question qui se pose tout particulièrement concernant la violence au cœur de notre monde contemporain, dont les causes et les explications que l'on en donne sont tout aussi gelées que les mots qu'on use pour les exposer. Religion, laïcité, démocratie, ennemi, fondamentalisme, totalitarisme, monothéisme, terrorisme, radicalisme, radicalisation, djihadisme, idéologie, utopie, islamisme, apocalypse, messianisme, violence, haine, vérité, illusion, prophétisme, antisémitisme. Que signifient exactement tous ces mots? En faisons-nous un bon usage? Quels affects véhiculent-ils? Dans quelle structure explicative s'insèrent-ils pour construire une pensée affinée, subtile et critique? Ouvrent-ils possiblement au rapprochement, au partage, à la compréhension des autres? Ou ne font-ils qu'exacerber les tensions, les oppositions, les exclusions et les pensées mortifères et destructrices? C'est à toutes ces questions que s'est confronté un philosophe qui nous propose aujourd'hui un livre d'une vive intelligence et d'une rare clarté, un livre courageux qui donne des outils pour penser, à commencer, à l'instar de Rabelais, un art de décongeler les mots et par la suite les idées qui s'y rapportent. Jacob Rogonzeski, bonjour.
Bonjour.
Jacob Rosinski, vous êtes philosophe et professeur à l'Université de Strasbourg. Vous êtes l'auteur, entre autres, du Moi et de la chair, paru en 2006, et Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la terreur, en 2015. On vous avait reçu pour ce livre. Dans votre nouveau livre, Djihadisme, le retour du sacrifice, que vous publiez aujourd'hui chez Des Clés de Brouwer, vous nous proposez une analyse profonde sur le djihadisme que vous abordez en tant que philosophe. C'est un point sur lequel vous insistez. Qu'entendez-vous par cette expression « en tant que philosophe » ? En quoi vos analyses, philosophiques donc, de cette question diffèrent-elles des analyses sociologiques, historiques, politiques, théologiques, psychiatriques et psychanalytiques ?
Oui, vous avez raison, il y a toute une série d'ouvrages très nombreux écrits par des psychiatres, des psychanalystes, des sociologues et autres. Certains sont très bons, d'autres un peu moins. Bon, mais il m'a semblé que quelque chose d'essentiel était manqué pour toute une série de raisons. Parce qu'au fond, voilà, on avait trop souvent affaire à des mots écrans, à des mots fétiches qui sont gelés, enfin qui gèlent, c'est-à-dire qui empêchent la circulation du sens, qui empêchent l'interprétation. Et je pense qu'il était important de dégeler les mots. Bon, c'est un texte magnifique que le texte de Rabelais que vous nous avez lu. Bon, déconstruire les significations pétrifiées ou sédimentées, ce qui est, à mon avis, la tâche de la philosophie, c'est une entreprise de dégel. Voilà. Donc j'ai essayé d'un peu de dégeler, ce qui implique aussi de renoncer à certaines expressions qui circulent beaucoup dans le discours ambiant, dans le discours médiatique et le discours de tous les jours, enfin la parole de tous les jours, et qui me semble barrer la route à la compréhension du sens.
On parle beaucoup d'essentialisme aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie exactement ce terme ? Qu'est-ce que essentialiser et comment en sort-on ? Quels outils la philosophie nous offre-t-elle pour le faire, Jacob Rosinski ?
Très souvent, on parle de l'islam, de l'Occident, de la modernité, de la démocratie, et on les essentialise, c'est-à-dire qu'on en fait des entités massives, statiques, figées. Bon, massives, c'est-à-dire des blocs sans contradiction. L'islam serait tout entier fanatique, par exemple, ça s'entend de plus en plus souvent dans le discours ambiant. La modernité serait par essence libératrice, la démocratie serait bonne par essence, donc on en fait des blocs. Et on en fait aussi des entités figées. Là, pour le coup, réellement, on les congèle. C'est-à-dire qu'on en fait des entités qui ne bougeraient pas, qui n'évolueraient pas au cours de l'histoire. Donc je pense que là, la tâche du philosophe, c'est encore une fois de dégeler ce qui est congelé, c'est-à-dire de renoncer à penser par essence et d'essayer de penser en termes de dispositif.
Oui, alors ça, c'est important. C'est un terme que vous utilisez tout au long de votre livre et c'est un outil, je crois, majeur dans cette capacité que vous avez et que vous nous transmettez. D'abord, qu'est-ce qu'un dispositif ? Parce que
c'est une notion que j'emprunte à Michel Foucault. Je dirais, bon, essentiellement, le dispositif, c'est un ensemble hétérogène, complexe. C'est pas un bloc, il est traversé de lignes de fuite, de lignes de fêlures, de fractures possibles. Donc, il n'est pas non plus statique. Il est en mouvement, il ne cesse de se transformer dans la conjoncture, et il lui arrive de muter, de changer totalement de style et de stratégie. Bon, il y a des dispositifs d'exclusion. Par exemple, bon, au Moyen-Âge, on avait commencé par enfermer les juifs et les lépreux dans des ghettos, dans des léproseries. Mais ces dispositifs d'exclusion sont changés à un moment donné, au XIVe siècle, en dispositifs de persécution. Et donc là, on s'est mis à massacrer les gens qui s'y trouvaient. Donc voilà, des dispositifs peuvent changer, ils peuvent se transformer. Et donc, il faut éviter toute analyse essentialiste, c'est-à-dire toute analyse qui tendrait à figer et à rendre monolithique ce qui sont en fait des réseaux complexes, mouvants, des agencements toujours provisoires qui sont en train de croiser d'autres agencements et qui peuvent s'hybrider avec eux.
Alors justement, vous venez d'évoquer ces dispositifs d'exclusion. Parmi ces dispositifs, il y en a certains plus prégnants que d'autres. Dans le cadre de la problématique du djihadisme, il y a des dispositifs de persécution, dispositifs de terreur, dispositifs d'émancipation. Comment s'articulent tous ces dispositifs ? Et la question sous-jacente est de savoir si le terme de terrorisme s'applique en fait réellement au djihadisme. Jacob Rogozinski.
Voilà, je pense effectivement que le terme de terrorisme fait partie de ces paroles gelées que nous évoquions tout à l'heure. C'est un terme trop massif, trop statique, qui désigne, en les amalgamant, des stratégies, des réalités très différentes. Donc essayons non pas de remplacer un mot par un autre, c'est pas de ça qu'il s'agit. Essayons de penser autrement, c'est-à-dire de penser en termes de dispositifs stratégiques. Bon, c'est pourquoi je propose d'analyser ce que j'appelle des dispositifs de terreur, qui sont eux-mêmes très contradictoires. Bon, après tout, le terme terrorisme, c'est un terme tellement vague qu'on a pu l'appliquer à des gens comme Jean Moulin ou comme Nelson Mandela. Bon, le terroriste, c'est toujours l'autre, c'est celui qu'on combat. Personne n'a jamais dit « je suis terroriste », mon mouvement se définit comme terroriste. Donc, il faudrait essayer de penser autrement. Alors, j'appelle dispositif de terreur un dispositif de pouvoir qui se donne pour cible, pour but, de désigner des ennemis et de les anéantir, de les détruire. Voilà. C'est très simple. Alors, après, il faut affiner l'analyse. C'est-à-dire que parmi ces dispositifs de terreur, certains on développe ce que j'appelle une terreur stratégique, c'est-à-dire une terreur limitée. Il s'agit par exemple de libérer son territoire d'une invasion étrangère, bon, par exemple, ou ce qui est vécu comme tel. Alors des dispositifs de ce type, ils peuvent changer de stratégie. Ils peuvent décider d'abandonner la lutte armée et donc on peut arriver à passer des compromis, à s'allier avec eux. C'était le cas de l'IRA en Irlande, c'était le cas de l'ETA au Pays Basque et dans une certaine mesure aussi l'OLP palestinienne. Donc voilà, là on a affaire à un rapport de force qui permet de passer des compromis, des alliances. Bon. Mais il y a un autre type de dispositif de terreur qui, là, développe ce que j'appelle une terreur totale ou une terreur globale, et non plus une terreur stratégique limitée. Alors, ce second type de dispositif de terreur, il vise à une guerre absolue, une guerre sans fin, une guerre totale, parce qu'il désigne non pas des ennemis réels, mais des ennemis absolus. La terreur stratégique, elle est appliquée par exemple par les résistants anti-nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de chasser l'occupant allemand des territoires qu'ils occupaient, et notamment en l'occurrence de la France. Mais jamais il n'était dit qu'il fallait se rendre après en Allemagne pour anéantir jusqu'au dernier tous les Allemands. Bon, donc l'État allemand était considéré comme un ennemi réel qui avait pu autrefois être un allié, qui pourrait redevenir un allié par la suite, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc l'ennemi réel, il est circonscrit et provisoire.
Alors que du côté des nazis, les juifs étaient un ennemi absolu, et là on était dans une terreur absolue.
Tout à fait, c'est exactement cela. Et je pense que dans le cas du djihadisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que le djihadisme, ça, il ne s'agit pas de l'essentialiser, il s'agit de chercher quelle est sa ligne stratégique, c'est-à-dire comment il définit ses objectifs. Or, l'objectif défini dès le départ par Al-Qaïda d'abord, bon, et même avant, c'était le djihad global, c'est-à-dire une conquête totale du monde afin d'imposer au monde entier la conception fanatique et régressive de l'islam qui est la leur. Et bon, il s'agit d'abord d'anéantir l'Occident et ce qui est pour eux la tête de pont de l'Occident, c'est-à-dire Israël, et sur les ruines de cela, sur les ruines d'Israël, d'Europe et des États-Unis, établir un empire de terreur. Donc je pense que ces gens-là, aucun compromis n'est possible et ils ne changeront pas. Ils iront jusqu'au bout dans leur logique. C'est pourquoi bon, on doit se réjouir de la libération de Raqqa, de Mossoul, mais en fin de compte, il ne faut pas se réjouir trop vite, parce que pour eux, c'est simplement une étape provisoire dans un combat global. Ils ont perdu là, ils reprendront ailleurs. Ils sont déjà en train de se reconstruire en Libye et beaucoup plus loin, du côté du Pakistan ou de l'Afghanistan. Pour eux, c'est un combat de longue durée, c'est un combat global qui a pour but d'établir un empire de terreur sur la terre entière. C'est comme ça qu'ils l'entendent. Et donc, lorsque les djihadistes font un attentat, que ce soit à Bamako, à Stockholm, à Paris, à New York, ils ne font que marquer leur territoire, un territoire qui s'étend au monde entier. C'est-à-dire ils affirment, en tuant n'importe où dans le monde, leur droit absolu de tuer, donc leur souveraineté globale sur la terre entière.
Thank you.
Je sais que les auditeurs seront absolument surpris de cette musique dans le contexte de notre conversation. C'était très difficile pour moi de trouver une transition musicale dans un contexte de terreur. Alors j'ai choisi cette musique, beaucoup l'ont reconnue, qui est l'Allegro Agitato du Concerto pour harpe et cordes de Boieldieu. Et un musicien qui composa sous la terreur en France dans les années, à la fin du 18e siècle, et qui a écrit beaucoup d'opéras, dont un des librettistes avait le même nom que Saint-Just, puisqu'il s'appelait en fait Claude Godard d'Aucourt, baron de Saint-Just. Et je me suis dit que c'était intéressant de faire entendre cette musique. Et je me disais que dans un autre contexte, qui est celui que nous évoquions, cela permet de poser deux questions essentielles. Premièrement, qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes se radicalisent ? Et vous allez nous expliquer pourquoi vous pensez que ce terme est inadéquat dans le contexte du djihadisme. Et deuxièmement, qu'est-ce qui provoque leur adhésion active à un dispositif de terreur ? Illusion de liberté qui est en fait une capture par un dispositif de terreur. Commençons par la question, si vous voulez bien, de la radicalisation. Pourquoi est-ce un terme inapproprié ?
Oui, ça fait partie encore de ces paroles gelées qui circulent dans le discours médiatique. Alors, le terrorisme, c'est plus ancien, donc on aura plus de mal à se débarrasser de cette fausse notion. La radicalisation, c'est très récent. Il y a, je crois, une dizaine d'années, c'est peut-être depuis le 11 septembre 2001 que ce terme a commencé à se répandre. Je crois que c'est une source de confusion. Bon, pour deux raisons. Alors, première raison, on en vient à considérer que toute radicalité serait forcément liée à ce qu'on appelle l'islamisme, donc au fondamentalisme musulman. Et donc, se radicaliser, être radical, signifierait être forcément un terroriste djihadiste. Non, non. Là, il faut revenir au sens des mots. Bon, Marx disait, le jeune Marx, bon, il disait, être radical, c'est prendre les choses par la racine. Effectivement, le mot radical est de même racine, c'est le cas de le dire, que le mot racine. Voilà, donc être radical aujourd'hui, pour nous en France, en Europe, bon, c'est s'attaquer aux racines, aux sources de la souffrance sociale, lutter pour plus de justice, plus d'égalité, lutter contre la discrimination, contre le chômage. Donc il y a une bonne radicalité, une volonté de chercher une alternative radicale à l'oppression, à l'injustice dont souffrent un grand nombre de gens dans le monde entier. Bon, alors si on se contente de dire se radicaliser signifie devenir terroriste, on écrase cette perspective, on évacue cette perspective d'une juste radicalité. Moi je pense que la radicalité du djihadiste, c'est une fausse radicalité, puisque elle transforme une véritable protestation contre l'injustice en une sorte de guerre de religion fanatique. Donc soyons radicaux, mais pas cette façon-là. Voilà, ça c'est la première raison.
Si le terme est inadéquat, par quel terme vous pensez qu'il faut le remplacer ?
Oui, alors quand on dit radicaliser, quelqu'un s'est radicalisé, on a l'impression que c'est un processus continu, qu'il y avait déjà quelque chose de mauvais en lui, une sorte de fanatisme ambiant, et puis bon, l'attente, puis il serait radicalisé, ça serait aggravé. Mais ça ne se passe jamais comme ça. On a affaire à une sorte de rupture, de césure radicale dans l'existence. C'est des gens qui mènent une vie ordinaire, bon, et puis tout à coup, leurs proches ne les reconnaissent plus. Il a changé, il a commencé, bon, à ne plus boire d'alcool, aller tout le temps à la mosquée, etc. Bon, voilà. Donc c'est une sorte de changement, de coupure brutale.
C'est ce que vous appelleriez une conversion ?
Oui, on a un terme qui est légué par la tradition chrétienne et aussi philosophique d'ailleurs, c'est le terme de conversion. C'est-à-dire une rupture brutale, un changement d'existence qui implique, bon, la mort du vieil homme et la naissance d'un homme nouveau. Mourir pour renaître. Moi, je pense qu'au lieu de parler de radicalisation, il faudrait parler de conversion. Mais il y a toutes sortes de conversions. Il y a des conversions à des croyances tout à fait honorables, bien sûr. Et il y a des conversions à la haine. Des conversions dangereuses. Moi, je pense que là, ce qu'on appelle radicalisation, en fait, ce sont des conversions au fanatisme. Je pense qu'il faut dégeler ces vieux mots, ressusciter ces deux vieux mots qui sont très, très efficaces et adéquats, le mot de conversion et le mot de fanatisme.
Le mot fanatisme, revenons à son radical, qu'est-ce qu'il signifie ?
Alors ça, c'est très intéressant. Au départ, il n'y avait pas du tout de sens péjoratif en latin. Hein, le fanum, c'est l'enclos sacré. C'est le, bon, c'est l'enclos du temple, l'enclos sacré, où se pratiquait le culte, c'est-à-dire des prières et surtout des sacrifices. C'est important. Il y a une dimension sacrificielle hein, dans le djihadisme. Oui. Bon, c'est dans le titre de mon livre, Djihadisme, le retour du sacrifice. On y reviendra sans doute plus tard. Donc au départ, le fanaticus, pour les latins, c'était le desservant du culte. C'était quelqu'un qui aidait le prêtre à pratiquer les sacrifices. Et plus tard, le terme est devenu péjoratif dans l'Empire romain. Il a fini par désigner une exaltation superstitieuse et dangereuse. Alors bon, pour définir le fanatisme, il y a un très bel énoncé de Voltaire que j'aime bien. Enfin, Voltaire dit « Celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique ». Bon, ça veut dire que toute religion comme telle n'est pas fanatique. Mais toute religion peut, dans certaines conditions, produire un certain fanatisme. Dès le moment où on cherche à imposer sa croyance par la violence et par le meurtre. Et c'est précisément ce qui se passe dans le cas du fondamentalisme musulman de type djihadiste.
Alors la deuxième question qui nous intéressait, c'était quelles sont les conditions pour qu'ait lieu la capture par la dispositif de la terreur de ces personnes qui se sont converties. Donc à ce fondamentalisme.
Bon, alors là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains des auditeurs. Bon, je pense que le djihadisme, comme d'autres mouvements de terreur, s'enracine très souvent, peut-être pas toujours, mais très souvent dans une souffrance sociale. C'est-à-dire une souffrance sociale, pas seulement psychologique. On a tort de réduire ça à des problèmes d'Oedipe, des affrontements entre adolescents et parents, etc. Il faut, ça, c'est la lecture des psys. Je pense qu'il faut aussi faire une lecture plus profonde. Il y a une souffrance sociale qui est liée, bon, à l'injustice, qui est liée au chômage, à la misère, à la discrimination, à la relégation dans des quartiers déshérités.
À la non-reconnaissance, d'une certaine manière.
Et c'est essentiellement de manière de ne pas être reconnu. Quelqu'un qui pense avoir les compétences pour travailler et qui se heurte au mur, la discrimination, se retrouve au chômage, il y a le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Il y a donc un déni de reconnaissance. Et qu'on n'est pas reconnu, ça peut provoquer des sentiments de révolte, de colère, d'indignation, et ça peut virer à la haine. Alors, je pense que le dispositif, il vient capter ces affects de révolte qui, au départ, sont tout à fait légitimes. Il les capte et il les fait passer à autre chose. Il transforme une juste colère en haine. C'est-à-dire, j'insiste beaucoup sur ce point. La colère peut être juste. Bon, d'ailleurs, dans le judaïsme, dans le christianisme, on parle de la colère de Dieu. Le jour de colère qui est le jour du jugement. Bon, donc la colère est liée à l'idée de justice. On est en colère parce qu'on a le sentiment, vrai ou faux, peu importe, d'avoir subi une injustice. Et on veut la réparer. Donc la colère se lie aussi à l'espérance, à l'espoir de réparer le tort. Mais lorsque la colère passe à la haine, alors là, tout change. Parce que la haine rompt avec toute idée de justice. La haine n'a qu'un seul but, c'est de détruire son objet de haine. Quoi qu'il ait pu faire. Bon, les gens qui venaient, enfin les djihadistes qui venaient massacrer au Bataclan des malheureux qui venaient écouter un concert de musique, paraît-il, en les mitraillant, ils hurlaient « c'est pour ce que vous avez fait en Syrie ». Mais les gens qu'ils mitraillaient n'avaient pas bombardé des villages syriens, ils n'avaient pas été tirés, faire le coup de feu et combattre en Syrie ou en Irak. C'était des gens qui écoutaient un concert de rock, des innocents.
Oui, c'est un paradoxe, parce qu'en fait, dans la colère, il y a encore un rapport à la racine de la colère, c'est-à-dire cette humiliation. Et quand on passe de la colère à la haine, on pourrait dire que la haine est une colère qui a oublié sa racine,
oui,
par rapport à ce que
ça.
Vous avez dit.
Tout à fait.
Mais à ce
tout
moment-là,
à
la question très importante, c'est en quoi l'adhésion à l'État islamique, par exemple, pourquoi et comment cela donne à ces humiliés, si vous voulez, pour reprendre votre expression, leur donne un principe de reconnaissance ou une reconnaissance, en quoi ils se sentent plus reconnus?
Oui, l'essentiel c'est de rappeler, comme vous le dites, que la haine a rompu avec l'idée de justice. La haine est la rage d'anéantir ses ennemis. Donc je pense que la haine, ça c'est un point très important, elle permet de surmonter l'angoisse et de surmonter le sentiment d'impuissance, le sentiment d'être au fond un déchet, de ne rien valoir. Donc elle permet de lutter contre la honte et contre l'humiliation liée au déni de reconnaissance. Alors, il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en jeu. C'est que je pense que tout dispositif utilise certaines représentations que j'appelle des schèmes. Voilà. Alors, des schèmes sont des représentations imaginaires, sont pas du tout des théories. Ce sont des représentations qui traversent les siècles et qui peuvent prendre des sens tout à fait différents. Bon, par exemple, ce qu'on appelle à tort la théorie du complot n'est pas du tout une théorie, c'est un schème. Bon, je pense que le messianisme, on en parlera peut-être bientôt ensemble, je pense que le messianisme et l'attente de l'apocalypse, qui ne sont pas la même chose, fonctionnent aussi comme des schèmes. Je suis persuadé que les gens qui adhèrent à un dispositif de terreur de type djihadiste sont... porté par une intense révolte qui vire à la haine et aussi par un sentiment d'espérance. Il y a l'espérance de changer le monde, d'atteindre un monde plus juste. Et cette espérance, elle peut être captée par un dispositif au moyen de ces schèmes, et notamment du schème messianique, de l'attente de l'avènement du Messie, d'une apocalypse qui détruira ce monde corrompu pour devenir un monde plus juste. Et c'est ainsi que des sentiments qui sont au départ positifs, la révolte contre l'injustice, la colère, l'espérance peuvent être captés par le dispositif de terreur et virés à la haine. Et là, ils deviennent purement mortifères. Et je crois que là, on a un critère très intéressant pour distinguer au sein de, par exemple, d'une religion comme l'islam,
oui,
ce qui est légitime et ce qui est totalement illégitime. Aucune révolte ne peut justifier la terreur. Aucune révolte ne peut justifier la haine. Je pense que dès le moment où une révolte vire à la haine, à ce moment-là, elle devient illégitime. Elle perd le désir de justice qui l'orientait au départ. C'est des choses qu'Albert Camus avait très bien dit dans un autre contexte, dans L'homme révolté.
Et alors, on parle aujourd'hui de déradicalisation, puisque le terme n'est plus adéquat, puisqu'on a remplacé par la conversion. Est-ce qu'il y a la possibilité de lutter contre la conversion, puisque apparemment c'est quelque chose qui est tout à fait brutal, ce sentiment d'humiliation, de désir de reconnaissance est absolument nécessaire pour nous tous. Et la question est de savoir comment ce sentiment dans la colère qui garde son lien avec sa racine, comment faire en sorte que la colère ne se transforme pas en haine et en haine destructrice.
C'est très difficile, là on touche à une question de fond. S'agissant du cas des individus particuliers qui ont cédé à ces dispositifs de terreur, bon là s'il faut voir au cas par cas, et ça c'est pas du tout la tâche du philosophe, c'est la tâche, des magistrats, des psychiatres, je n'ai rien à dire cette question sur les cas particuliers. Mais plus généralement, si on admet derrière c'est l'adhésion à ces mouvements, comme à des mouvements du siècle dernier, des mouvements qui ont semé aussi la mort à une échelle bien plus grande, comme le fascisme, le nazisme, le communisme stalinien. Combien de millions d'opprimés et d'exploités sont reconnus dans les idéaux du communisme stalinien? Et donc on fermait les yeux sur ce gigantesque dispositif d'extermination et de terreur qui a conduit des millions de gens au goulag. Je veux dire, à une échelle un peu plus réduite, mais c'est le même processus, on retrouve ça aussi dans le djihadisme. Donc il ne s'agit surtout pas de justifier.
Oui, mais on a l'impression qu'il y a une solution assez simple, si je peux me permettre, parce que si la racine, c'est l'injustice à la fois sociale et surtout en s'appuyant sur Hegel et sur cette idée fondamentale que l'homme est essentiellement homme lorsqu'il est reconnu par son désir de reconnaissance, est-ce qu'il n'y aurait pas pour tous ces jeunes, pour toutes ces personnes qui s'engagent pour leur reconnaissance, une façon de les reconnaître ici et maintenant dans la société? Est-ce que c'est justement pas ce travail de reconnaissance qui devrait être mis en œuvre partout, je veux dire, pas simplement comme on dit dans les quartiers sensibles? Est-ce que justement l'école, alors vous allez me dire qu'il y en a beaucoup qui vont pas à l'école, mais comment faire pour que, je crois que il y a peut-être une manière de donner une reconnaissance à tous ces jeunes, toutes ces femmes et tous ces jeunes gens.
Oui, vous avez tout à fait raison. Bon, s'il est vrai que la haine mortifère s'enracine souvent dans le sentiment de ne pas être reconnu, dans un déni de reconnaissance, il faut faire en sorte que ceux qui se sentent exclus de la reconnaissance se sentent enfin reconnus. Et donc
Il y aurait un paradoxe, parce que nous sommes partis de l'idée que le djihad ou l'adhésion au djihad inscrivait les personnes qui suivaient cette tendance, enfin ce mouvement, qui s'y inscrivaient, étaient dans une terreur absolue. c'est-à-dire vers un ennemi absolu. Et là, on aurait l'impression que s'il y a une sorte de reconnaissance, on pourrait arrêter cette terreur absolue, parce que l'ennemi ne serait plus absolu, puisque c'est l'ennemi qui était ceux qui ne les reconnaissent pas, tout à coup les reconnaissent, Jacob Rogoczynski.
Oui, si mon ennemi me reconnaît, pour ce que je suis, il cesse d'être un ennemi absolu. On s'est dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Des gens qui ont basculé du côté obscur, qui ont basculé dans le camp de la haine, on a ressenti beaucoup de mal à les faire revenir à autre chose, je pense. Mais bon, ce n'est pas la question de fond. Je pense que ce qu'il faut, c'est penser l'articulation de deux manques de reconnaissance. Alors, il y a effectivement un manque de reconnaissance sociale, et là, on peut le combattre, c'est un combat de longue haleine, mais on peut le combattre en luttant contre les causes de la souffrance sociale. L'oppression, l'injustice, l'humiliation, le chômage. Mais malheureusement, il y a aussi un autre type de déni de reconnaissance, c'est un déni de reconnaissance symbolique. Et là, c'est très important et c'est beaucoup plus difficile à travailler, parce que ça met en jeu le statut même de l'islam dans l'histoire des trois monothéismes.
Alors, c'est ce que nous allons voir avec vous la semaine prochaine. Jacob Rogoczynski, merci pour ces passionnantes explications qui ne sont qu'une première étape dans votre réflexion sur le djihadisme. Réflexion que je vous propose de continuer à mener ensemble la semaine prochaine, car il reste un très grand nombre de questions que j'aimerais aborder avec vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, un livre exceptionnel de clarté et de profondeur, comme je l'ai dit, et dont je rappelle le titre complet, « Djihadisme, le retour du sacrifice », publié chez Desclés de Brouwer. Merci encore Jacob Rogoczynski. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Bernard Laniel, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau, Coltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.